du haut de l'escalier. Frédéric poussa Rosanette dans le fiacre, se mit en face d'elle, et pendant toute la route, ne prononça pas un mot. L'infamie dont le rejaillissement l'outrageait, c'était lui-même qui en était la cause. Il éprouvait tout à la fois la honte d'une humiliation écrasante et le regret de sa félicité. Quand il allait enfin la saisir, elle était devenue irrévocablement impossible, et par la faute de celle-là, de cette fille, de cette catin. Il aurait voulu l'étrangler, il l'étouffait. Rentré chez eux, il jeta son chapeau sur un meuble, arracha sa cravate. « Ah, tu viens de faire quelque chose de propre, avoue-le. » Elle se campa fièrement devant lui. « Eh bien, après, où est le mal ?»« Comment, tu m'espionnes ? Est-ce ma faute ? Pourquoi vas-tu te divertir chez les femmes honnêtes ? N'importe, je ne veux pas que tu les insultes. En quoi l'ai-je insulté ?» Il n'eut rien à répondre, et d'un accent plus haineux. « Mais l'autre fois, au Champ de Mars. Ah, tu nous ennuies avec tes anciennes, misérables. » Il leva le poing. « Ne me tue pas, je suis enceinte. » Frédéric se recula. « Tu mens. Mais regarde-moi. » Elle prit un flambeau et montrant son visage. « T'y connais-tu ? » De petites taches jaunes maculaient sa peau, qui était singulièrement bouffie. Frédéric ne nia pas l'évidence. Il alla ouvrir la fenêtre, fit quelques pas de long en large, puis s'affaissa dans un fauteuil. Cet événement était une calamité, qui d'abord ajournait leur rupture et puis bouleversait tous ses projets. L'idée d'être père, d'ailleurs, lui paraissait grotesque, inadmissible. Mais pourquoi ? Si, au lieu de la maréchale... Et sa rêverie devint tellement profonde qu'il eut une sorte d'hallucination. Il voyait là, sur le tapis devant la cheminée, une petite fille. Elle ressemblait à Madame Arnoux et à lui-même, un peu. Brune et blanche, avec des yeux noirs, de très grands sourcils, un ruban rose dans ses cheveux bouclants. Oh, comme il l'aurait aimé. Il lui semblait entendre sa voix. « Papa, papa !» Rosanette, qui venait de se déshabiller, s'approcha de lui, aperçut une larme à ses paupières, et le baisa sur le front, gravement. Il se leva en disant « Parbleu, on ne le tuera pas, ce marmot !» Alors, elle bavarda beaucoup. Ce serait un garçon, bien sûr. On l'appellerait Frédéric. Il fallait commencer son trousseau. Et en la voyant si heureuse, une pitié le prit. Comme il ne ressentait maintenant aucune colère, il voulut savoir la raison de sa démarche tout à l'heure. C'est que Mademoiselle Batnaz lui avait envoyé ce jour-là même un billet protesté depuis longtemps, et elle avait couru chez Arnoux pour avoir de l'argent. « Je t'en aurais donné, » dit Frédéric. « C'était plus simple de prendre là-bas ce qui m'appartient et de rendre à l'autre ses 1000 francs. « Est-ce au moins tout ce que tu lui dois ?» Elle répondit, « Certainement. » Le lendemain, à 9 heures du soir, heure indiquée par le portier, Frédéric se rendit chez Mademoiselle Batnaz. Il se cogna dans l'antichambre contre les meubles entassés, mais un bruit de voix et de musique le guidait. Il ouvrit une porte et tomba au milieu d'un raout. Debout, devant le piano que touchait une demoiselle en lunettes, Delmar, sérieux comme un pontife, déclamait une poésie humanitaire sur la prostitution, et sa voix caverneuse roulait, soutenue par les accords plaqués. Un rang de femmes occupait la muraille, vêtues généralement de couleurs sombres, sans col de chemise ni manchette. 5 ou 6 hommes, tous des penseurs, étaient çà et là sur des chaises. Il y avait dans un fauteuil un ancien fabuliste, une ruine, et l'odeur âcre de 2 lampes se mêlait à l'arôme du chocolat qui emplissait des bols encombrant la table à jeu. Mademoiselle Batnaz, une écharpe orientale autour des reins, se tenait à un coin de la cheminée. Dussardier était à l'autre bout, en face. Il avait l'air un peu embarrassé de sa position. D'ailleurs, ce milieu artistique l'intimidait. La Batnaz en avait-elle fini avec Delmar ? Non, peut-être. Cependant, elle semblait jalouse du brave commis, et Frédéric, ayant réclamé d'elle un mot d'entretien, elle lui fit signe de passer avec eux dans sa chambre. Quand les 1000 francs furent alignés, elle demanda, en plus, les intérêts. « Ça n'en vaut pas la peine, » dit Dussardier. « Tais-toi donc !» Cette lâcheté d'un homme si courageux fut agréable à Frédéric, comme une justification de la sienne. Il rapporta le billet et ne reparla jamais de l'esclandre de chez Madame Arnoux. Mais dès lors, toutes les défectuosités de la maréchale lui apparurent. Elle avait un mauvais goût irrémédiable, une incompréhensible paresse, une ignorance de sauvage, jusqu'à considérer comme très célèbre le docteur Dérougy. Et elle était fière de le recevoir, lui et son épouse, parce que c'étaient des gens mariés. Elle régentait d'un air pédantesque sur les choses de la vie. Mademoiselle Irma, pauvre petite créature douée d'une petite voix, ayant pour protecteur un monsieur très bien, ex-employé dans les douanes et fort autour de cartes. Rosanette l'appelait « mon gros loulou ». Frédéric ne pouvait souffrir non plus la répétition de ces mots bêtes tels que « du flanc, à Chaillot, on n'a jamais pu savoir », etc. Il s'obstinait à épousseter le matin ses bibelots avec une paire de vieux gants blancs. Il était révolté surtout par ses façons envers sa bonne, dont les gages étaient sans cesse arriérés et qui même lui prêtaient de l'argent. Les jours qu'elle réglait leurs comptes, elles se chamaillaient comme deux poissardes, puis on se réconciliait en s'embrassant. Le tête-à-tête devenait triste. Ce fut un soulagement pour lui quand les soirées de Madame d'Ambreuse recommencèrent. Celle-là au moins l'amusait. Elle savait les intrigues du monde, les mutations d'ambassadeurs, le personnel des couturières. Et, s'il lui échappait des lieux communs, c'était dans une formule tellement convenue que sa phrase pouvait passer pour une déférence ou pour une ironie. Il fallait la voir au milieu de 20 personnes qui causaient, n'en oubliant aucune, amenant les réponses qu'elle voulait, évitant les périlleuses. Des choses très simples, racontées par elle, semblaient des confidences. Le moindre de ses sourires faisait rêver. Son charme, enfin, comme l'exquise odeur qu'elle portait ordinairement, était complexe et indéfinissable. Frédéric, dans sa compagnie, éprouvait chaque fois le plaisir d'une découverte et cependant, il la retrouvait toujours avec sa même sérénité, pareille au miroitement des Olympides. Mais pourquoi ses manières envers sa nièce avaient-elles tant de froideur? Elle lui lançait même, par moments, de singuliers coups d'œil. Dès qu'il fut question de mariage, elle avait objecté à M. d'Ambreuse la santé de la chère enfant. Elle l'avait emmené tout de suite au bain de Balaruc. À son retour, des prétextes nouveaux avaient surgi. Le jeune homme manquait de position. Ce grand amour ne paraissait pas sérieux. On ne risquait rien d'attendre. Martinon avait répondu qu'il attendrait. Sa conduite fut sublime. Il prôna Frédéric. Il fit plus. Il le renseigna sur les moyens de plaire à Madame d'Ambreuse, laissant même entrevoir qu'il connaissait, par la nièce, les sentiments de la tante. Quant à M. d'Ambreuse, loin de montrer de la jalousie, il entourait d'égards son jeune ami, le consultait sur différentes choses, s'inquiétait même de son avenir, si bien qu'un jour, comme on parlait du père Roch, il lui dit à l'oreille d'un air finaud « Vous avez bien fait ». Et Cécile, Miss John, les domestiques, le portier, pas un qui ne fût charmant pour lui dans cette maison. Il y venait tous les soirs, abandonnant Rosanette. Sa maternité future la rendait plus sérieuse, même un peu triste.